est 6h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Clotilde Dumais.
Le journal international. Bonjour Julien Coquelroem.
Bonjour Clotilde. À la une, Donald Trump qui affiche une nouvelle fois sa confiance alors que la guerre au Moyen-Orient entrera demain dans son deuxième mois. Le président américain prêt à déclarer la victoire ou en tout cas convaincu en apparence que le conflit peut se terminer par la diplomatie. Il évoque des discussions qui se passent très bien avec l'Iran et repousse de 10 jours son ultimatum et sa menace de frapper les centrales électriques du pays. Ce premier mois de guerre et ses nombreuses conséquences au cœur ce matin d'une édition spéciale sur RFI. Rendez-vous ici même dans une heure. À la une également la situation toujours catastrophique des Palestiniens de Gaza, de nouvelles inondations dans les camps de fortune où vit la majorité de la population. Nous sommes sur place. Dans ce journal aussi, des conditions de travail de plus en plus difficiles pour les journalistes de la région des Grands Lacs. Reporters sans frontières s'en inquiète dans un rapport. Et puis une exposition pour retracer l'histoire millénaire de Byblos au Liban. Elle vient d'ouvrir à Paris malgré la guerre qui enflamme de nouveau le pays.
C'est une proposition à sens unique et injuste.
Les mots d'un haut responsable iranien à l'agence Reuters pour rejeter le plan de paix proposé par les États-Unis, alors qu'un média officiel iranien affirme de son côté que Téhéran a répondu à ce plan et attend un retour. Bataille de récits et situation toujours floue ce matin sur le terrain de la diplomatie, alors que la guerre au Moyen-Orient entrera demain dans son deuxième mois. Donald Trump se montre encore une fois confiant. Le président américain avait promis de viser les centrales électriques de l'Iran s'il refusait de négocier. Il a finalement décidé de repousser cet ultimatum au vu de discussions qu'il qualifie de très productives. Vincent Souriau, la date limite est désormais fixée au 6 avril.
Donald Trump affirme que s'il repousse son ultimatum de 10 jours, c'est, je cite, « à la demande du gouvernement iranien ». Des discussions sont en cours, poursuit-il, et elles se passent très bien. Steve Witkoff, le principal négociateur de la Maison-Blanche, confirme de son côté que l'administration américaine a bien transmis un plan aux Iraniens. Il estime avoir perçu les signes d'un possible accord avec l'Iran, mais ne dévoile rien de concret. Et la présidence américaine souffle toujours le chaud et le froid, car un peu plus tôt, dans la journée d'hier, Donald Trump avait martelé que si ses interlocuteurs en Iran ne cédaient pas, il continuerait de les bombarder sans relâche et que malgré leur déclaration publique, ils suppliaient les États-Unis de conclure une trêve, car d'après Donald Trump, je cite, ils se sont fait botter le cul. Vincent Souriau, Washington RFI.
Trump prêt à déclarer victoire alors qu'Israël a mené de nouveau ce matin une vague de frappes de grande ampleur sur Téhéran et que l'Iran continue de riposter. Les gardiens de la Révolution annoncent avoir tiré des missiles et des drones cette nuit contre des cibles militaires et énergétiques dans les pays du Golfe.
Le Liban à nouveau frappé aussi cette nuit par Israël.
Des explosions dans la banlieue sud de Beyrouth, alors que le porte-parole de l'armée israélienne affirmait hier soir avoir besoin de forces supplémentaires sur le front libanais et de manière générale pour pouvoir assurer l'ensemble de ses missions. L'état des troupes inquiète en Israël et suscite la colère d'une partie de la classe politique. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a accusé hier Benjamin Netanyahou de mener le pays vers un désastre sécuritaire et d'avoir lancé une guerre sur plusieurs fronts sans stratégie.
Et bientôt un mois après le début de cette guerre, chaque jour est l'occasion, Julien, de prendre la mesure de ses nombreuses conséquences.
La Banque mondiale se dit ainsi prête à répondre aux demandes des pays en difficulté en raison de la perturbation du transport maritime et de la hausse des prix de l'énergie. Parmi les secteurs très affectés depuis un mois, il y a celui du plastique, car les hydrocarbures sont indispensables à sa fabrication. La hausse des prix du pétrole fait donc craindre un effet en chaîne. Certains plastiques sont par ailleurs produits directement en Arabie Saoudite, aux Émirats et au Qatar. Le danger, Anne Verdaguet, c'est celui d'une pénurie.
Le polyéthylène, qui est la matière la plus utilisée aujourd'hui dans l'industrie plastique, a bondi en quelques semaines de 1400 à 2000 euros la tonne. Une hausse qui se répercute déjà sur les entreprises du secteur, confrontées à des coûts supplémentaires de 20 à 40% imposés par leurs fournisseurs. Les blocages de navires dans le détroit d'Ormuz font aussi craindre des pénuries à court terme. Joseph Taïefé, secrétaire général de Plastalliance, syndicat européen de la plasturgie.
Quand les industriels passent des commandes, ils n'ont plus l'assurance, on va dire, même d'être livrés. Et entre le moment où ils ont passé la commande et le moment où la marchandise arrive, le prix du produit a déjà encore augmenté. Quand vous n'avez plus de matières premières qui arrivent, et ça c'est le grand danger qu'on voit arriver, c'est l'arrêt de la production, tout simplement. Donc c'est un hiver industriel qui s'annonce, et donc à un moment donné, effectivement, quand on ne pourra plus fournir, ça va être automatiquement l'arrêt de la production et le chômage partiel.
À terme, ces tensions pourraient mécaniquement entraîner une hausse des prix des produits fabriqués à base de plastique et l'impact s'étendre à de nombreux nombreux secteurs, l'automobile, l'aérien, la construction, mais aussi l'emballage ou le secteur de la santé qui utilise le plastique pour la fabrication de son matériel médical.
Anne Verdaguet du service économie de RFI, les multiples conséquences, notamment économiques, de la guerre au Moyen-Orient, au cœur de votre édition spéciale. Dans une heure, Clotilde, rendez-vous à partir de 7h, temps universel. On en parle aussi avec votre invité dans un peu plus de 10 minutes, l'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major de la marine française et ancien chef d'état-major particulier du président de la République. Il est dans nos studios.
En attendant, eux sont les grands oubliés de cette guerre dans la région, les Palestiniens.
Et tout particulièrement les Gazaouis, toujours plongés dans le désastre humanitaire de la destruction de l'enclave par l'armée israélienne ces deux dernières années. Plus d'un million et demi d'habitants vivent encore aujourd'hui dans des abris improvisés et la bande de Gaza a été touchée hier par de fortes intempéries. Reportage dans les camps de fortune inondés par la pluie. Rami Almeghari sur place et Frédéric Misselin à Jérusalem.
Équipé d'un balai dérisoire, Ahmad a les pieds dans la boue. Le camp de déplacés dans lequel il vit à Megazi est complètement inondé. La route qui y mène est impraticable avec la pluie et sous sa tente de fortune, Ahmad ne sait pas s'il pourra sauver quelque chose.
Les meubles, le réfrigérateur, la vaisselle et toutes les provisions, la farine, tout est plein d'eau, tout est sale avec la boue. Regarde le matelas, il goûte. Je n'ai pas pu l'enlever, quand je l'ai trouvé, il était plein d'eau. Je l'ai laissé, j'ai dit « tant pis, qu'est-ce que je peux faire ?»
Une quarantaine de familles vivent dans le camp de déplacés. Les bâches de plastique tentent de résister au vent. Akram a deux garçons et deux filles, elle est épuisée.
Depuis 5h du matin, j'essaie d'enlever toute cette eau. J'ai pris mes fils, je leur ai dit d'aller dehors, moi j'enlève l'eau. Nous sommes déplacés depuis 6 mois et à chaque fois qu'il pleut, nous sommes inondés. C'est une situation sans fin.
Akram a besoin de couvertures, de vêtements chauds pour ses enfants. Elle attend de l'aide qui n'arrive pas. Rami Almeghari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
À la une également ce rapport inquiétant publié par Reporters sans frontières, dans la peau d'un journaliste des Grands Lacs. C'est le titre de ce document sur les conditions de travail de nos confrères dans une zone marquée par l'instabilité et que l'ONG décrit comme un terrain particulièrement hostile. Le rapport vient d'être présenté à Kinshasa car la République démocratique du Congo y tient une place importante, en particulier en raison des conflits dans l'est du pays. À Kinshasa, Pauline Azidi.
Un rapport inédit sur le quotidien, j'allais même dire sur la tragédie au quotidien que vivent les journalistes congolais et dans les 5 autres pays de la sous-région des Grands Lacs qui sont plongés depuis plusieurs décennies dans une grave crise sécuritaire.
Le mot d'introduction de Chivis Chiwadi, secrétaire général de Journalistes en danger, résume ce que RSF dénonce dans son rapport. Des journalistes en première ligne pris en étau entre les violences et les pressions politique. Dans la région, la RDC est le pays qui a enregistré ces dernières années le plus de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. 5 depuis 2021, 4 uniquement dans les provinces de l'Est. Sur les 500 journalistes arrêtés dans les Grands Lacs ces 10 dernières années, la moitié l'ont été au Congo. Et il faut que les choses changent, estime Sadi Boumarong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF.
Il faudrait que les journalistes, il faudrait que vous et nous puissions toujours avoir la possibilité de continuer à faire votre travail. Et c'est ça qui est important en termes de mots-clés. Faire votre travail sans risque de représailles et sans autocensure, sans risque également d'être censuré.
Enfin, RSF souligne aussi la bataille informationnelle avec un contrôle et des pressions sur les médias pour imposer un narratif du conflit. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et dans l'est de la République démocratique du Congo, justement, les combattants de l'FC M23 ont abandonné sans combattre plusieurs localités du territoire de Lubero dans le Nord Kivu. C'était dans la nuit de lundi à mardi selon la société civile. Certaines zones ont depuis été occupées par des milices alliées à l'armée congolaise. Le baromètre sécuritaire du Kivu relève que ces retraits surviennent peu après la rencontre de représentants de la RDC et du Rwanda à Washington. C'était le 17 et 18 mars.
En France, une politique répressive qui met en danger les personnes exilées.
C'est ce qu'ont raconté d'une même voix les associations qui interviennent à la frontière franco-britannique. 5 d'entre elles étaient auditionnées hier par la commission d'enquête parlementaire qui a 6 mois pour faire le point sur l'action publique menée sur le littoral. Toutes ont dépeint un tableau très sombre, un territoire rendu de plus en plus inhospitalier et des conditions de survie catastrophiques à la frontière. Compte rendu Amélie Beaucourt.
Dans le viseur de l'ONG Human Rights Observer, la politique, zéro point de fixation. 10 ans d'expulsion quasi quotidienne des lieux de vie qui ne découragent pourtant pas les exilés.
Inlassablement, les campements ils sont expulsés, les affaires ils sont saisies, voire détruites. En fait, peu importe la longévité et la fréquence de ces opérations, les personnes se réinstallent, elles reviennent, elles reprennent leur place, elles occupent à nouveau le même terrain. Les traversées, elles aussi, continuent.
Un seul effet, d'après l'association Utopia 56, celui de mettre en danger davantage les personnes migrantes.
Des pneumatiques qui vont être percées avant leur mise à l'eau. La dispersion du groupe de personnes par une police en tenue anti-émeute qui fait un usage de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement, de coups de tonfa, parfois le tout depuis des 4x4 ou des buggies qui sont lancés à vive allure au milieu des personnes sur les plages.
Seule solution pour Claire Mignot de l'association Salam, un changement de législation.
Ce n'est pas une impasse, c'est une souricière. On ne peut sortir dignement ni par l'avant vers le Royaume-Uni, ni par l'arrière vers la France. Ils sont coincés là, ils n'ont pas de solution.
Déboutés de leur demande dans un autre pays européen, la majorité d'entre eux ne peuvent pas accéder au statut de réfugié en France.
Amélie Beaucourt.
Et puis Julien, c'est une exposition que les conflits à répétition ont longuement retardée.
Et pour cause, puisqu'elle est consacrée au Liban, à Paris, l'ouverture à l'Institut du Monde Arabe de l'exposition Biblos, reportée en 2024. Alors qu'Israël frappait déjà lourdement le pays, elle vient d'être inaugurée malgré la nouvelle offensive israélienne qui enflamme le Liban. Elle donne à voir des œuvres acheminées comme par miracle pour raconter l'histoire de l'une des plus anciennes cités portuaires au monde. Une page de l'histoire de l'humanité vieille de près de 9000 ans, Muriel Mahalouf.
Le moment est solennel, le jour de l'inauguration, comme si au-delà d'un événement culturel, l'exposition Biblos témoignait de la survie d'un pays déchiré une nouvelle fois par la guerre. Tania Zaven, directrice du site archéologique de Biblos, a de la peine à contenir son émotion.
L'histoire du Liban, c'est une page de l'humanité. Le Liban a été habité durant plusieurs milliers d'années. Biblos, c'est durant 8900 ans avec une
présence continue. Vous en voulez encore ?
Merci, Wembley. C'est ce qu'on veut.
Merci. Merci la nation, la main dans des gants. Vous connaissez ?
Merci beaucoup.
Merci. Oh, merci.
Salut. À très bientôt.
Gars. DEF au mic. DEF au mic. Dakis Nation. Dakis Nation. Dakis Nation. Petit artiste local. Petit artiste local. Ha-ha. Les pieds dans la flaque, main dans les poches, j'plaque mes rimes en vrac. Mon cœur se bat avant l'attaque, j'guette de côté, j'attends une plaque. Habillé sans strass pour la bac, même plus de stress. Ma première transac date, excès de confiance ou tac. Comme beaucoup appris sur le tas, pression artérielle intacte. Car toujours en retard, j'en ai plein de sacs. Besoin de quand se va, au bol emploi un poste vacant. En attendant, c'est les barrettes et les skeuts que je vends. Tu rêves à mes beaux gosses, même si la cam est douce. Si ça va, tout le monde bève, c'est garde la pêche. Comme dit Boop, saute au bras du peu de baisse. La main fut des carpe stock, la vie un glock chargé sur la tombe, qu'attend le top. Ah, ceci reste perso et peut être mal perçu. La sur du bonheur dès le berceau. Ici, beaucoup l'ont vécu mourir jeune. Où l'être et le vouloir évoque la colère des potes qui te regardent du dessus. Et ceux qui en toi ont espoir lunatique. Comme le CAC 40, j'ai les dents longues. Ici, trop de carottes, ici, finir à l'ombag à la patte comme une charogne. Je rechine à courber les chines et à pousser le chariot. Pas le courage d'irer à l'usine comme mon daron à Renault. Sur le bateau, suis les rats. Ça sent ton phare, sur des gares, tu dégares autant de chiffres de ton, suis les livreurs de pizza. Moi perso, je suis la vibes, les pieds dans la flaque jusqu'à la vache. Chaque mot de mes phases, à le lettrage de les phases. Entre clair et mes vers, mes cordes vocales, instruments de mes nerfs. Vision terre à terre, petit artiste local, tête en l'air. Issu de la sueur de mon père, du stress de ma mère. Ici bas, dans ce monde, je représente tous les habitants de la terre. On se fait des becs, on porte un épac, yeah. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. En attendant, on stagne les pieds dans la flaque. On se fait des becs, on porte dans les packs. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. En attendant, on stagne les pieds dans la flaque. Zigzag entre les mauvaises, en attendant les bonnes nouvelles. Bizarrement, les anges ont des ailes, mais je vois rien dans le ciel. Ça sent le coup fourré, mais j'ai pas encore lequel. Peur de dormir, de prendre le train comme Simone Veil. Marre de rendre des comptes au vautour, de mal voter au deuxième tour, d'avaler leur sale mytho sur les deux tours. J'en ai fait des tours sur moi-même, j'en ai loupé des cours. Toujours à la bourre, vas-y, fais des tours, rien sert de pourrir ça. Man, j'ai bien compris, le son de fonça sur la fontaine, fumer le sushi. Prends l'exemple de la cigale, de la fourmi. Tellement devenu accro que ça claque même la porte aux amis. Individualiste à souhait, mec, ton analyste à sueur. Baisse tout ce qui bouge, mais fais la morale à ta sœur. Tous dans nos bulles, attendant que la route tourne. Les pieds dans la flaque, ya, prenons goût à la routine. On se fait des becs en portant des packs, ya. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. En attendant, on stagne les pieds dans la flaque. On se fait des becs en portant des packs, ya. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. En attendant, on stagne les pieds dans la flaque. Les pieds trempés, de grosses courbatures au trapèze. Rabat au trapiste là où la cuite pose de jazz. Moi et ma diaspora, ça va bonne taille le poutra. Roule de bon gras et cherche la suite du programme. On parle pas de fin du film, mais on a faim ici et file. Avant que la reine des catins lâche ses fils. Nos vies des fiascos, les pieds dans l'eau. En attendant, picolons, picolons tant que le père met notre dos. On se fait des becs en portant des packs. Relève la tête quand on se prend les claques. On attend tous ce déclic pour jeter au lac. Mais en attendant, on stagne les pieds dans la flaque. On se fait des becs en portant des packs. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. Mais en attendant, on stagne les pieds dans la flaque. On se fait des becs en portant des packs. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. En attendant, on stagne les pieds dans la flaque. On se fait des becs en portant des packs. Relève la tête quand on se prend des claques. On attend tous le déclic pour jeter au lac. Mais en attendant, on stagne les pieds dans la flaque. Bah ouais.
Wanna pay? I'm a hurricane, thundering and hell's.
nous avons essayé de créer une chaîne d'un ton et d'un style très jeune.
Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
We love all the Moulinas.